a engendré d'importantes pertes de change. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a reporté le vote sur un plan de relèvement du plafond de la dette qui devait avoir lieu cette nuit. Il s'agit d'une nouvelle manifestation du blocage politique qui persiste à Washington à 5 jours d'un possible défaut de paiement. Et toujours en économie, l'agence de notation Moody's a annoncé ce matin qu'elle pourrait abaisser la note de crédit de l'Espagne en raison du risque d'une hausse durable des coûts de financement du pays. L'agence évoque également la faible croissance et les dérapages budgétaires de certaines régions en dépit des efforts de réduction des déficits entrepris par Madrid. Micheline Calmiret sera bien au Grutli le 1er août, ses services l'ont annoncé hier. La présidente de la Confédération s'y rendra comme simple citoyenne, elle ne fera donc pas de discours. Reste que sa présence sur la mythique prairie a un effet symbolique qui réjouit Jean-Daniel Gerber, président de la Société Suisse d'Utilité Publique qui gère le Grutli. On l'écoute.
Elle n'a pas demandé la parole, nous ne sommes pas préparés à la recevoir, mais nous la recevons avec beaucoup de joie, parce que ça rend quand même le Grutli sa place qu'il lui doit, c'est-à-dire un symbole vivant de la liberté pour notre patrie.
Si elle avait demandé la parole, si elle avait demandé de faire un discours, vous lui auriez accordé l'autorisation le cas échéant?
Oui, bien entendu, écoutez, vous ne pouvez pas dire non à une présidente ou un président de la Confédération.
Est-ce que la présence de Micheline Calmiret va vous poser des problèmes supplémentaires de gestion de la sécurité sur place?
Non, bon, vous savez, la Société Suisse d'Utilité Publique gère cette place maintenant depuis plus de 150 ans. On a l'habitude, mais nous ne pensons pas et nous n'avons pas d'indication comme quoi il y aurait des démonstrations.
Jean-Daniel Gerber répondait à Simon Matédoré dans le journal du matin sur la première. Football, le propriétaire du Neuchâtel Xamax, Boulat Chagaïev, au centre d'une polémique depuis plusieurs semaines pour sa gestion du club, sort de son silence. Il a tenu à s'expliquer hier auprès de l'agence Sport Information sur le licenciement du staff de Neuchâtel Xamax. Boulat Chagaïev qui met en cause l'ex-directeur sportif du club, Sonny Anderson, récemment licencié, qui aurait selon lui opéré des choix sportifs liés à des intérêts financiers personnels. En natation, Dominique Maestri a amélioré son propre record de Suisse de 100 mètres papillon lors des séries des Mondiaux de Shanghai. Le Saint-Gallois a nagé la distance en 53 secondes et 54 centièmes, soit 10 centièmes plus rapidement que l'an dernier. Pas assez rapidement toutefois pour parvenir à se qualifier pour les demi-finales. Le ciel de la journée sera bien ensoleillé sur toutes les régions. Quelques averses ou orages isolés sont néanmoins à prévoir sur les reliefs. Les températures seront comprises entre 13 degrés ce matin et 23 à 26 degrés cet après-midi.
Continuez l'actualité sur rsrinfo.ch. Depuis 4 mois, la Syrie vit un mouvement de contestation sans précédent contre le régime de Bachar al-Assad. Mais les manifestations et les revendications sont loin de rassembler toute la population. À l'intérieur et à l'extérieur du pays, des Syriens de l'opposition et des partisans du régime racontent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et disent ce qu'ils pensent. Au cœur de l'impasse syrienne, c'est le reportage de 15 minutes, ce samedi à 12h40 sur la première, reprise en soirée à 22h40 et à tout moment sur le site rsrinfo.ch. À marée haute, Madeleine Caboche, Michel Durand-Valade, Dylan Hill.
Bonjour Michel.
Bonjour Madeleine.
Durand-Valade Caboche pour vous embarquer sur les îles depuis une semaine presque, puisque à marée haute saison 3, c'était notre propos. Alors, il y a eu différentes îles depuis le début de la semaine, mais aujourd'hui, pas d'îles en particulier, Michel, hein, pas d'îles lointaines, mais plutôt comment nous fantasmons les îles.
Et souvent, ces îles, nous les fantasmons évidemment paradisiaques, on le verra, puis souvent assez désertes. Et il y a une question qui est récurrente, c'est-à-dire quand on ne sait pas quoi demander à un invité, par exemple à la radio, on lui demande « qu'est-ce que vous aimeriez emporter sur une île déserte ?» Madeleine, vous emporteriez quoi sur une île déserte ?
Mon homme.
Sans blague.
Bah oui, je ne veux pas toute seule sur une île déserte, moi.
Bah alors, elle n'est plus déserte.
Oh bah oui, mais alors j'y vais pas. Ou alors des piles pour mes lampes de poche, mais mon homme essentiellement. Et vous, Michel, Léon Malade ?
Alors, parce qu'on s'est posé la question hier, donc j'ai réfléchi toute la nuit. Ça a été très difficile. Et puis, je me suis dit, ce qui me manquerait le plus, c'est la musique. Or, on ne peut pas emmener des CD, des MP. Oh non, mais moi, j'aime pas ces machins MP3.
Aussi.
Ouais, mais il faut la partager, la musique. Il faut toujours. Donc, j'emmènerai un guitariste.
Ah oh bah voyez, vous partez aussi avec quelqu'un, vous.
Oh non, un guitariste.
Bon, d'accord. Ouais, ouais.
Une petite guitare, comme ça, on chanterait le soir autour d'un feu de palme.
Bon, donc ça toutes les bien. Deux, nous ne serons pas seuls sur nos îles.
Pas tout à fait, non. cela dit, pourquoi parfois, dans le cours de nos vies, nous mettons-nous à rêver à l'île déserte? Et je suis sûre que si on demandait à nos auditeurs de la décrire, elle serait toujours un peu la même. Elle est douce, elle est entourée de plages de sable blanc et fin, d'une mer turquoise, peuplée de poissons colorés. Et puis il y a quand même une forêt, emplie d'arbres nourriciers, en fruits, en oiseaux, en petits mammifères inoffensifs et délicieux.
Puis pour l'ombre aussi.
Et pour l'ombre. Une forêt qui aurait tout de même sa part mystérieuse, dont les profondeurs seraient insondables. Il y faudrait aussi un pic rocheux, pas tout à fait inaccessible, qui permettrait parfois de prendre un peu de hauteur sur la mer, pour voir arriver par exemple le fameux bateau Salvateur. Une île déserte comme toutes les autres, une île vierge. Vierge. Et plus que la liberté ou la solitude, c'est peut-être bien cette virginité qui nous attire. Virginité d'un monde à ses débuts, d'un monde à ses origines, d'un monde vierge, sans péché, d'un monde juste avant la pomme, juste avant la pensée, d'un monde pur et innocent vers lequel nous ne reviendrons jamais. Nous avons laissé pour toujours derrière nous le temps des cavernes, le temps de l'autosuffisance, le temps de la relation intime avec la nature. Pour toujours, nous nous sommes dépouillés de nos hardes de bons sauvages. Et c'est peut-être ce qui parfois nous manque atrocement, cette innocence du commencement, non ?
Bah oui, le paradis perdu, quoi, le paradis perdu hein, ouais. C'est ça.
Je ne sais pas si la personne que nous allons entendre là, tirée de la poussière du temps et par ailleurs de nos archives, me suivrait dans ce raisonnement. C'est une personne, ma foi, fort intéressante, qui a un jour voulu faire délibérément l'expérience de cette solitude de l'île déserte. C'est Georges de Cône.
Cette île était située dans l'archipel des Marquises, qui se trouve tout à fait au nord de la Polynésie, et qui, contrairement à la définition classique de la Polynésie de Bougainville, cocotiers, sable blanc, lagon, paradis terrestre, c'est un côté de la Polynésie peu connu. Ce sont des volcans, des montagnes volcaniques, sortant de l'immensité du Pacifique, des sortes de châteaux inviolables, noirs, sinistres, sans végétation et affreux.
Île vraiment déserte.
Il y avait deux îles désertes, Montalé et Yao. Comme il fallait louer l'île et qu'il y avait des questions d'argent, lorsque j'ai dit que ça appartenait à l'administration et qu'on le louait pour un franc symbolique, la radio de l'époque, après avoir longuement délibéré, car elle était assez inquiète, a fini par me donner les moyens d'aller l'occuper.
L'île qui s'appelle donc
Yao, il n'y a que des voyelles. E-I-E-I-A-O, c'est son vieux nom marquisien.
Alors là, combien de temps es-tu resté ?
Alors je suis resté tout seul avec mon chien, mes appareils d'émission et nu comme un ver finalement, puisque j'avais bien une cantine avec des livres. Je suis resté 4 mois dans l'île, seul dans l'île. Bon, c'était une île sans végétation à la latitude de l'équateur, c'est-à-dire que j'étais écrasé par le soleil du matin au soir. J'étais dans les îles désertes, c'est toujours très occupé, les îles désertes, il y a toujours des bêtes. Il y avait des mouches venimeuses qu'on appelle les nonos, qui sont un peu l'équivalent des pians d'Afrique, mais enfin des petites bêtes typiques et contre lesquelles il n'y a rien à faire. J'étais piqué du matin au soir, j'étais dévoré. Il y avait des sans-pieds venimeux, enfin il n'y avait que une nature hostile, je n'avais pas d'amis. Que mon chien qui dépérissait et quelques moutons qui déambulaient dans la montagne, dans la pierraille. C'était un relief de lune avec dans le fond des ravins quelques feuilles échappées à des arbres sur les parois à pic et que mangeaient les moutons.
Avec quoi a entretenu ton moral pendant ces mois de solitude ?
Oui, mon problème, ça a été d'entretenir mon physique parce que mon moral. Si le moral flanche dès le premier jour, ce qui est une aventure de romancier. Le romancier, même le Robinson de Daniel Defoe, a des grands troubles. Tout d'un coup, il relit la Bible, il a des troubles métaphysiques, etc. Mon moral n'a jamais été un problème parce que mon problème était uniquement physique. J'étais dans cette île avec l'ambition de gagner ma vie, mais le premier souci, c'était de ne pas la perdre. C'était que mon souci, c'était une aventure de survie, l'île déserte. C'était pas du tout une aventure morale. Quand j'ai vu la nuit le bateau qui m'avait amené, la lueur de ce bateau disparaître derrière la pointe rocheuse de l'île, je me suis dit où je reste assis sur les rochers et je suis à Châteaubriand ou Édernalier, je fais du romantisme sur mon rocher et je meurs tout de suite, ou bien je vais essayer de m'adapter à ce rocher, à cette chaleur, à ces bêtes, à ces inconvénients, et je vais essayer de vivre. Il y a un poème de Sully Prudhomme, là, qu'on nous apprenait à l'école, le boulanger m'a dit un rêve, fais ton pain, etc. Moi, je n'avais ni boulanger ni personne, j'étais un homme tout seul. Et j'ai appris, premièrement, le goût de l'eau, bien que l'eau que j'étais obligé de boire soit magnésienne, c'est-à-dire qu'une purge, la magnésie, donc j'en buvais 5 litres par jour et c'était pas très recommandé. J'ai appris le goût et le désir de l'eau, le goût des choses simples, la nécessité des autres. Dans la solitude, je n'ai appris que des idées sociales ou des idées collectives, finalement. Je suis revenu de la solitude avec le goût des autres. Mais je crois que chacun de nous a besoin de partir, ne serait-ce que pour retrouver le goût de l'eau, le goût du pain, le goût des autres.
Voilà, c'est en effet Georges de Cône, alors le père de l'Antoine, parce que tout le monde ne
le
sait pas
de
qui. Georges de Cône, l'Antoine de Cône, enfant du Roc. Alors ça, cette aventure-là qu'il raconte à Michel Denaria, c'est dans les années 60. Il est parti en 1962. Il était à l'époque en France, pour l'ORTF, un des présentateurs du journal télévisé, une star, qui décide vraiment de manière journalistique. C'est pas juste pour mieux connaître ses états d'âme. Il part en tant que journaliste avec en effet des contrats rendu à la fois sur France Inter et puis pour le journal Le Figaro, des comptes rendus réguliers. Il l'a dit, il avait de quoi parler, hein, pas recevoir. Il voulait rien entendre. Et pour, par contre, il pouvait parler. Et alors, puisqu'on essayait de définir ce que c'était que ce fantasme de l'île comme ça qui fait rêver, bah là, il raconte volontiers dans ces récits-là que, bien sûr, au départ, il choisit l'île parce que ça le faisait rêver, comme nous tous, mais que sur place, si au départ, le choix...
Oui, hein, mais enfin, il n'a pas fait un choix idyllique.
Non, il n'a pas choisi l'île la plus confortable. Il a choisi une île où il n'y avait effectivement pas d'ombre, où il n'y avait pas d'animaux, ou des chèvres squelettiques immangeables. Et alors, ce qu'il dit, effectivement, c'est que ce qui était le plus dur, c'était la lutte physique. Comment résister à ces conditions complètement inhumaines? Il y est resté 4 mois et on est venu le chercher en urgence. Alors, on a toujours, nous, les plus âgés, et peut-être même les Suisses aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de son aventure.
C'était aussi diffusé sur la radio romande. Hein,
c'est vrai.
Oui.
Ah oui, alors cette image, cet homme qui perd 18 kilos, qui a la longue barbe et qui a l'air vraiment efflanqué en rentrant. Bah donc voilà, ça c'est pour dire que cette aventure-là nous a marqué, vous a peut-être marqué, vous les plus âgés, et qu'en tout cas là, on comprend bien que c'est pas tout à fait le paradis. On est dans la marée haute, tout à l'heure on va rejoindre Chantal Pelletier, mais pour l'instant c'est le temps d'une chanson, Michel.
Pas d'âme, Nadine.
À marée haute, sur la première.
Nadine, 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 Nadine.
Elle aime le jerk et la biguine.
Nadine, Nadine.
Elle aime Brando, elle aime James Dean.
Nadine, Nadine.
Elle adore Arizona Dream.
Nadine, Nadine.
C'est ce qu'on peut lire sur son profil.
Nadine, Nadine.
À l'agence, on l'appelle Staline.
Nadine, Nadine.
Les tirs au flanc, elle élimine.
Nadine, Nadine.
Parce que Nadine, elle est le trim.
Nadine, Nadine.
C'est la dernière de loin son ordine.
Nadine,
elle est couscous, elle est tagine.
Nadine, Nadine.
Elle est soirée entre copines.
Nadine, Nadine.
Elle se sent libre, elle est si libre.
Nadine, Nadine.
C'est ce qu'on peut lire sur son profil.
Nadine, Nadine.
Chez elle, c'est petit, alors Nadine.
Nadine, Nadine.
S'est fait construire une mezzanine.
Nadine, Nadine.
Pour l'amour, c'est pas très pratique.
Nadine, Nadine.
Mais c'est pas souvent qu'elle pratique. Elle aime Brando, elle aime James Dean.
Nadine, Nadine.
Elle aime le Tchirk et la Peggy.
Nadine, Nadine.
Elle adore Arizona Dream.
Nadine, Nadine.
Ce qu'il y a écrit sur son profil.
Nadine, Nadine.
Pour la forme, elle fait la piscine.
Nadine, Nadine.
Contre les blues, elle fait du shopping.
Nadine, Nadine.
Le week-end, un peu de cocaïne.
Nadine, Nadine.
J'ai un adolescent au Lexomil.
Nadine, Nadine.
Caline, ce soir en haut de la mezzanine, c'est vrai qu'il sent ce chat débile, ni le Brando, ni le James Dean.
Nadine, Nadine.
Il sent la solitude, Nadine.
Nadine, Nadine.
Et ça c'est pas sur ton profil.
Nadine, Nadine.
Non, ça c'est pas sur ton profil.
Nadine, Nadine. Nadine, Nadine.
C'est pas sur ton profil.
Nadine, Nadine. Nadine, Nadine.
Nadine, dites, c'est vachement bien ça. En plus, on a un peu l'impression d'être déjà...
C'est un peu tahitien.
Oui, c'est un peu tahitien. C'est Chantal Pelletier au téléphone. Bonjour Chantal Pelletier.
Bonjour.
Alors Chantal Pelletier, là encore, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est les Jeannes d'abord. Et puis Chantal Pelletier, aujourd'hui, écrivain avec de très beaux livres et un très beau texte dont nous avons envie de parler. J'y reviens tout de suite. Chantal Pelletier, si on résumait, pour les moins de 20 ans, les Jeannes à l'époque, qu'est-ce que c'était ?
Oh, c'était un trio de pétroleuses qui se moquaient des hommes, des femmes, d'une façon, disons, peut-être féministe, mais un féminisme qui n'existait pas vraiment à une époque où le féminisme était militant et sérieux, grave, etc. Et nous, on a essayé d'en parler d'une façon légère,
fantaisiste, et drôle, très drôle.
Et donc, du coup, ça, je crois que ça a soulagé tout le monde. Ça a été assez efficace.
Alors ça, c'est de 76 à 86. Et puis, le livre qui retient notre attention, Chantal Pelletier, ce matin, s'appelle « À cœur et à crise ». Alors, c'est un très beau texte consacré à une grande dame de la radio en France, que nos auditeurs, parce que parfois ils nous trahissent avec France Inter, que nos auditeurs connaissent sûrement Chris Graffiti, Chris À cœur et à crise, c'était d'ailleurs le titre d'une de ses émissions. Chris nous a quittés, décédés en novembre 2009, et vous avez eu, parce que vous étiez très proche, vous avez eu envie de lui consacrer ce texte, qui est l'histoire à la fois d'une très très belle amitié, un hommage, une douleur aussi, parce qu'un être très proche vous a quitté, et puis un carnet de voyage, ce qui nous permettra de parler des Maldives. Mais d'abord, cette idée du livre, un petit peu hors sujet dans notre émission, mais dont j'ai tout de même envie que nous parlions. Un hommage, une déclaration d'amitié posthume.
Oui, l'envie surtout de faire revivre cette femme et de faire revivre les aventures que nous avons vécues ensemble, puisque cette petite collection aux éditions des Busclats demande à des écrivains de faire un pas de côté. Et c'est vrai que pour moi c'était un vrai pas de côté parce qu'il s'agissait de raconter une partie de ma vie, disons, en racontant mes aventures avec Chris, et que moi j'écris strictement toujours de la fiction, des romans, des nouvelles, etc. Et là, donc, j'ai écrit un petit journal où que j'ai tenu entre janvier 2010 et juin 2010, et où chacun de ces jeudis, de ces 24 jeudis entre cet hiver-là et cet été-là, m'évoque une aventure que j'ai vécue avec Chris, donc... un voyage, une conversation que nous avons eue, des conversations que nous avons, parce que surtout nous avons tellement parlé toutes les deux, des heures, des nuits, des jours entiers.
De toute la vie, de la mort des hommes.
Mais oui, parce que je pense qu'on était une génération de femmes qui... on découvrait beaucoup de choses. Nos mères, nos grands-mères, nos tantes, etc. n'avaient absolument pas vécu une vie aussi libre que celle qu'on découvrait dans les années 70. Et donc l'amitié était vraiment quelque chose de très important pour s'y retrouver. C'était vraiment notre port d'attache. C'était vraiment notre constante, quoi, notre référence. Et je crois qu'on avait besoin de d'ailleurs, les Jeannes, c'était ça aussi, c'est-à-dire que faire de nous maintenant que tout est possible et que tout est à découvrir.
Alors, une amitié qui s'est probablement consolidée lors d'un voyage aux Maldives en 1978, extrait dans ce livre de Chantal Pelletier, À cœur et à crise. Nous sommes seuls au milieu de l'océan Indien, sur une île inhabitée d'à peu près 3 km de circonférence, posée sur l'eau comme un radeau, sans le moindre relief. Le sable nacré est cerclé d'un lagon transparent, aquarium à poissons multicolores, qui gicle autour de nous dès que nous entrons dans l'eau, puis viennent nous picorer les jambes. L'air et la mer sont à peu près à la température de nos corps. Nous vivons nus ou enveloppés d'un sarong. Nos pieds ne savent plus ce que sont des chaussures. Ils sont devenus tactiles. Nous n'avons à nous défendre ni du chaud, ni du froid, ni du bruit. Pas la moindre agitation. Rien n'arrête notre regard, si ce n'est 3 ou 4 traits blancs et verts posés sur l'horizon, indiquant d'autres îles comme la nôtre, elles aussi inhabitées. Pas d'eau courante. Nous plongeons une boîte de conserve attachée à un long bâton dans le puits d'eau douce au centre de l'île pour nous laver à ciel ouvert. Nous faisons bouillir l'eau avant d'y ajouter du thé ou de l'eau de fleur d'oranger pour la boire. Nous nous levons avec le soleil, nous couchons avec lui. Ni électricité, ni compresseur, des lampes à pétrole et de poche, nous ignorons tout du monde, ni radio, ni journaux, ni télévision. Sur une langue de sable, notre maison sans mur ni toit, deux bancs accolés à une table, mobilier local, fait de tiges de palme ficelées et plantées dans le sable. Notre vaisselle, des cuillères en virgule de métal fabriquées, comme les verres et les assiettes, dans des canettes recyclées martelées par les pêcheurs. Nos distractions, baignades, nage jusqu'à la barrière pour admirer les coraux et les poissons, pêche à la palangrotte depuis notre barque, exploration de l'île, des plages, de la forêt centrale humide et fraîche, lectures à gogo. Nous dormons dehors, sur des matelas pneumatiques au milieu des crabes qui dansent autour de nous et nous font marrer en se dandinant comme des danseuses du Bolchoï. Et en cas d'averse, nous nous réfugions sous une tente où nos affaires sont abritées. Nous ne sommes en réalité pas tout à fait seuls. Deux Malvidiens, Ibrahim et Touti, entretiennent la cocoterie du centre de l'île. Ils habitent dans deux cahutes en corail et en bois de cocotier, dont l'une sert de cuisine. C'est le vieil Ibrahim qui, en plus de son travail de garde forestier, confectionne nos repas, toujours identiques. Du poisson frais, grillé ou cuit dans un bouillon, du riz blanc, un hachis de poisson séché et de noix de coco mûres, épicées de citron vert et d'herbes acidulées cueillies sur la plage. Chaque semaine, Hussein nous apporte du village le plus proche une heure de bateau, un régime de minuscules bananes très sucrées que nous laissons mûrir sous le sable, des papayes, des citrons verts, du thé, de la farine. Parfois, nous grillons une langouste et nous croyons croquer la chair même de l'océan. Voilà, ça c'est dans À cœur et à Chris, voyage de vous, Chantal Pelletier, avec Chris Graffiti. Alors c'était vraiment le paradis sur Terre à ce moment-là, 1978, Maldives, Velaravu, on dit vous ?
Non, Velavaru.
Velavaru. C'était le paradis, le vrai ?
C'était vraiment des moments exceptionnels. Je pense que c'était comme des rêves vécus, évidemment. Bon, c'était limité dans le temps, nous sommes restés là quelques semaines, c'était très très difficile d'y arriver, donc c'était peut-être ça le prix de cette chose-là, c'est-à-dire qu'on mettait vraiment des jours et des jours pour arriver dans cet endroit, et ce qui était difficile aussi, c'était d'en revenir, c'est-à-dire de se réhabituer à la foule parisienne, à la mauvaise humeur des gens dans le métro, au rythme du travail, au froid de l'hiver, au chaud de l'été, enfin, etc.
Il y avait quand même des choses difficiles sur l'une de ces 1200 îles des Maldives. Il y avait
des choses difficiles, évidemment, pour les habitants.
Nous étions mis un petit peu à part,
même si, évidemment, nous sommes allés dans quelques villages qui d'ailleurs ne voyaient jamais de touristes, et donc j'y suis allée aussi avec mon fils qui avait 7 ans à l'époque, et les habitants des villages le touchaient parce qu'ils n'avaient jamais vu de blanc, etc. Mais à la fois c'était pas une misère comme on peut connaître dans certains coins de l'Afrique, etc., parce que la mer regorge de poissons, les cocotiers sont partout, donc de toute façon, même si l'alimentation n'est pas complètement équilibrée, il y a des choses à manger. Ce qui a été difficile en fait pour ce pays, c'était sa rencontre avec le tourisme, et avec le tourisme de masse comme il s'est installé, parce que là on parle d'une époque, donc c'est il y a 33 ans, donc en 33 ans, je pense qu'à l'époque, il devait y avoir peut-être 3 hôtels sur l'ensemble de l'archipel. Aujourd'hui, j'ignore complètement combien il y en a, mais peut-être 1000. Et donc avec un aéroport qui a triplé ou quadruplé sa surface capacité d'atterrissage, oui, et de décollage, et puis donc des bateaux de touristes qui circulent partout dans l'archipel, etc. Donc c'est vraiment un autre monde. La capitale a au moins quadruplé sa surface parce que on a gagné sur la mer en prenant les coraux dans la mer, enfin, etc. Donc c'est un pays qui a énormément souffert de son développement, parce que c'est un développement compliqué, parce que c'est un pays, c'est très très difficile à imaginer un pays où il n'y a ni route, ni champ, ni carrière, enfin, etc., ni relief, parce qu'il n'y a pas de relief aux Maldives, c'est simplement du sable posé sur l'eau. Je crois que le point culminant des Maldives est à 4 mètres, et encore, je ne l'ai pas vu. Je pense que les îles, en général, sont à 2 mètres.
Et elles sont menacées de disparition avec la montée des eaux.
Par le réchauffement climatique. Ouais. Et ce qui est aberrant, parce que c'est un pays qui, pendant des siècles et des siècles, a vécu vraiment en abîmant rien de la planète, en consommant très peu et en vivant tout à fait en accord avec la nature, et c'est eux qui sont menacés. Mmh. Et c'est pour ça que nous, quand nous y sommes retournés 20 ans plus tard, pour faire une sorte de reportage en hommage à ce pays, parce qu'on était absolument scandalisés quand on a commencé à parler vraiment du réchauffement climatique avec inquiétude et à dire un des pays menacés, c'est les Maldives. On avait trouvé ce titre absolument épouvantable d'un journal qui disait « Profitez de ce paradis avant que les eaux ne l'engloutissent ». Enfin, c'était vraiment...
Michel, vous avez une question à Chantal.
Oui, Chantal Pelletier. Est-ce que cet instant, quand on a vécu un instant de cette qualité-là, enfin, tel que vous le décrivez dans le livre en tout cas, est-ce que cet instant reste dans votre mémoire comme une espèce de havre vers lequel vous pourriez à tout instant fuir, c'est-à-dire à la fois pour vous exclure, peut-être même pour y rester?
Alors, dans mon esprit, oui, dans ma tête, oui, dans un rêve, mais aujourd'hui, ce que nous avons vécu il y a 33 ans est absolument impossible. Il est absolument interdit d'aller habiter sur une île déserte, parce que les voyages en bateau sont complètement contrôlés, parce qu'il y a eu énormément de piratage, enfin, il y a des piratages sur toutes ces îles lorsqu'elles ne sont pas habitées, lorsqu'elles ne sont pas vraiment installées comme un hôtel, etc. C'est-à-dire dont vous pouvez vous réveiller le matin avec vous n'avez plus rien, toutes vos affaires ont été embarquées par un bateau qui est passé. Donc, je me réfugie souvent dans ce lieu, dans ma tête, mais je sais très bien que je ne pourrais pas revivre ça. Un jour, j'étais dans une agence de voyage et je vois Velavarou, 300 chambres, enfin, etc. Donc j'ai éclaté en sanglots dans l'agence, d'ailleurs, oui, et j'ai refermé aussitôt. Je voulais même pas savoir si c'était bien l'île que nous avions connue.
Ça veut dire que, selon vous, cette possibilité d'île a aussi disparu?
Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr.
Velavarou ou ailleurs, hein, mais...
Alors, oui, je pense, parce que ne serait-ce qu'à cause du piratage et ne serait-ce que parce que les pays et les sociétés, quelles qu'elles soient, contrôlent beaucoup plus les déplacements, les identités, etc. Mmh. Nous arrivions quasiment incognito, une barque nous attendait, ce qu'on appelle un dhuni là-bas, qui est le bateau traditionnel maldivien, nous attendait avec un équipage d'une dizaine de pêcheurs et nous partions et nous avions une vingtaine d'heures de bateau. Mais personne ne nous demandait où nous allions, on n'avait pas besoin d'autorisation pour voyager, etc. Et aujourd'hui, ce serait impossible.
Donc au fond, il reste, au-delà de la perte de cet ami, de Chris, il reste aussi ce projet que vous aviez toutes les deux de défendre l'île, de faire quelque chose pour ces Maldives, qui est un petit peu resté en l'air.
Voilà, donc ce projet ne s'est pas fait, bon, pour des raisons personnelles. À l'époque, ça a été trop compliqué de s'y consacrer parce que d'autres enjeux professionnels étaient là. Mmh. Et je veux dire, c'est vrai que c'est un regret que j'aurai toujours, parce que je pense que comme nous avions connu ces îles d'une façon très particulière et à une époque où elles étaient très différentes de ce qu'elles sont devenues, je pense que nous étions sans doute les bonnes personnes pour témoigner d'une façon, non pas en tant que spécialiste, etc., mais d'une façon humaine, simplement, parce que c'est un pays tellement particulier que nous étions persuadés qu'il avait un regard sur le monde qu'il fallait ne pas perdre, qu'ils avaient vraiment une culture à nous
faire partager. Ouais.
Et surtout aujourd'hui, où les problèmes écologiques sont tellement importants. C'est vrai qu'il y avait une civilisation là de la différence qui aurait pu nous être utile, je pense. Enfin, voilà.
Merci Chantal d'avoir passé ce moment avec nous, nous avoir permis, pour ceux qui l'ont écouté, de repenser à Chris, à cœur et à Chris, Chantal Pelletier, aux éditions des Buscla. On vous souhaite une belle journée là-bas où vous êtes, plutôt du côté de la Provence, si j'ai bien compris.
Oui.
Au revoir Chantal Pelletier.
Au revoir,
Chantal.
Merci beaucoup, au revoir.
Moi je vais rester sur mon idée d'innocence, et je vous propose un petit extrait d'une émission réalisée par Francis Parel aux Seychelles. Je parle d'innocence parce que... quand l'île n'est pas déserte, elle est habitée par des gens qui ont leur vie, une vie peut-être un peu particulière qui n'est pas la nôtre, et qu'il faut certainement du temps pour cesser de penser que les gens des îles, dans leur mode de vie, dans leur mode d'expression, sont plus proches
du pont sauvage
que nous de l'état d'innocence.
Ici, bien sûr, il y a le célèbre Coco de mer. Il a une histoire un peu particulière, puisqu'en fait, les premiers qui l'ont découvert ne savaient pas très bien d'où venait ce fruit ou cette noix étonnante.
Quand ils sont plus ou moins sur le bateau, ils ont vu le noix. Alors, quand ils ont vu le noix, ils pensaient que ça venait, que ça poussait en dessous la mer. Alors, c'est pour ça qu'ils ont donné le nom Coco de mer.
Oui, parce qu'ils l'ont découvert sur leur bateau, effectivement, qu'il y avait des noix qui flottaient, ouais. Et ils ne les avaient pas vues sur les arbres. Quelle est la particularité, outre bien sûr la forme, parce que je pense que tout le monde connaît ce fruit étonnant, qui a vraiment la forme d'une fesse, d'où d'ailleurs son nom un peu, on va dire, populaire, de coco-fesse, mais le vrai nom est coco de mer. Comment pousse-t-il, est-ce qu'on le sait ?
On ne sait pas exactement comment ils ont eu la forme comme ça.
Parce que c'est très suggestif. Hein,
ouais. On ne sait pas, non.
Combien de temps faut-il pour qu'une coco de mer arrive à sa forme définitive ?
Une noix, ça prend 3 ans pour germer, 7 ans pour mûrir. Et l'arbre, le palmier, ça prend 25 ans pour commencer à donner de fruits. Ouais. Et l'arbre, il vivait à peu près 2 à 400 ans. Mais la forme en maturité, plus ou moins, c'est 30, 40 ans. Coco,
coco de mer. Alors, Jessie a de l'humour parce qu'on vient de passer sous un palmier donc, de coco de mer. Elles ne sont pas mûres. C'est lorsqu'elles deviennent brunes qu'elles risquent de tomber. Hein, c'est bien ça?
Ouais, ouais.
Combien ça fait de kilos à peu près quand c'est mûr et que ça tombe?
10 à 20 kilos.
Il ne faut mieux pas rester dessous. Hein.
Bien sûr que sinon...
c'est
dangereux.
Hein,
ouais. Sinon, si ça tombe sur la tête, ouais. Là, vous allez rester aussi cher là, pour ça. Toujours. Ouais, yes.
Voilà, ce qui est déstabilisant, c'est que ça parle français, évidemment, on l'entend, avec l'accent créole qui n'est pas bien loin, la tentation du créole est toute proche. Et le créole, on le verra la semaine prochaine à La Réunion, on a consacré une émission créole, c'est quand même une langue dont on se demande si c'en est une véritablement. Et puis on découvre, avec des gens intelligents, avec des gens, ils sont tous intelligents, mais avec des gens littéraires, que le créole est une langue une extraordinaire, vraie langue. Magnifique,
très
avec
riche.
Une vraie structure, avec une vraie force, et un vrai talent d'expression. Donc c'est pas du petit nègre.
Et là c'est
soyons bien clairs.
Jusqu'à l'élégance. plus ici. Ma mère n'est plus là-bas. On dit qu'elle est partie, mais ça n'existe plus. Mais n'est pas du voyage entre ici et ailleurs, entre le ciel et là-bas, mais on n'existe pas. Mais n'existe pas, parfois nous la rêvons. Mais ça n'existe pas, ce n'est qu'une intuition. Ça n'existe pas, parfois elle nous attire. Dans cette certitude, qu'elle m'aime comme elle respire, la mer n'existe pas. Mais n'existe pas.
Les îles, ce matin sur la première avec vos mails et celui-ci, celui de Chantal Frézard, marehaute@rts.ch. À la fin des années 80, nous avons passé quelques jours sur une petite île voisine de l'île Maurice, l'île Rodriguez. C'était à la fin des années 80. La traversée de plus de 600 km s'est effectuée par bateau, lequel faisait la navette afin de ravitailler la population de Rodriguez. Ce trajet en bateau représentait déjà toute une aventure. Des dizaines d'autochtones y transportaient toutes sortes de denrées, dont de la volaille vivante et autres animaux. Le mélange de populations, la cacophonie qui régnait à bord, donnait une impression de vie et de gaieté des plus communicatives. Et arrivé sur l'île, on a fait le tour, 150 km² environ, subjugué évidemment par les lagons qui l'entourent. La population locale de Rodriguez est constituée pratiquement de créoles, on en parlait à l'instant, et nous avons pu observer les femmes qui pêchent l'ourite. L'ourite, c'est une petite pieuvre très prisée à l'île Maurice, au milieu des rochers. Et ces femmes pêchent à l'aide de longues perches dont elles transpercent très adroitement les fameuses bestioles. Ensuite, elles font sécher la récolte sur les fils devant la maison. Alors, à cette époque, il n'y avait pas d'hôtel sur Rodriguez. On logeait chez l'habitant, ce qui ajoutait encore à la magie. Et j'espère, dit Chantal, qu'il en est toujours de même et que cette île de rêve a pu garder toute son authenticité. On est tous un peu malheureux quand les îles risquent de se dégrader par le touriste, alors que nous sommes d'abord des touristes et que nous allons peut-être courir à l'île
Rodriguez, l'une des trois mascareignes, voilà. Donc avec Maurice et puis la Réunion. On a été aux Seychelles, aux Maldives, le troisième archipel paradisiaque, c'est la Polynésie française évidemment, Tahiti, on s'en doute. On ira tout à l'heure à Tahiti avec
on
vous,
ira avec Madeleine. Antoine, on l'a rejoint hier au téléphone, voilà, il est là-bas, lui.
Depuis la Polynésie française.
La nuit des temps.
On y va depuis un bon moment. Et Ambroise Xérémény, il y est allé en 1947, et il n'aura... 1954. Et il nous raconte son retour des
sa vision, îles. Sa vision des choses.
Ça aurait été dommage de se priver de cette perle.
Je voudrais, monsieur Xérémény, que nous commencions ce second entretien consacré à Tahiti par la relation que vous allez nous faire, je crois, de votre arrivée dans cette île, dans des circonstances absolument extraordinaires. Et bien en effet, c'est le hasard, je dois dire absolument le hasard, qui m'a fait débarquer à Papeete un 14 juillet. Et si ce 14 juillet est pour les Tahitiens l'événement le plus considérable de l'année, il l'était d'autant plus pour moi, vous n'en doutez pas. Le 14 juillet à Papeete ne s'appelle pas le 14 juillet, on l'appelle le juillet. On l'appelle le juillet parce qu'il commence généralement le 30 juin et finit le 1er août. Et encore, si tout s'est à peu près bien passé, si les commerçants n'ont pas demandé, les forains qui s'installent au bord de la mer n'ont pas demandé de prolongation de séjour, n'ont pas offert de payer, bien entendu, un prix de location supplémentaire pour avoir droit encore de faire marcher leurs petites boutiques qui sont à quelque chose près, à peu près, nos baraques foraines ici en Europe. Et ce 14 juillet a ce titre particulier qu'il est une fête nationale, comme vous vous en doutez, la fête nationale française, mais il nous permet de voir arriver des îles, des districts, des chanteurs, des danseurs en costume national, en morée, et qui se sont exercés pendant de longues semaines avant afin de concourir
à des compétitions qui les opposent dans l'art du chant, dans celui de la danse, les uns aux autres, et de remporter ainsi quelques prix en espèces. Or, je dois le dire, et je ne vexerai pas mes amis tahitiens, ces prix en espèces, étant donné que le tahitien est essentiellement désintéressé, lui servent à faire ce qu'on appelle vulgairement la bringue. La bringue à Tahiti est un mot qui est passé dans le langage. Vous pouvez passer chez un de vos amis à 3h du matin, à 3h de l'après-midi, lui dire « je te prends dans 2h, on va faire un tour au district, on va dîner chez un tel, tu en es ». S'il n'est pas prêt, il vous demandera le temps minimum, vous repasserez, il sera prêt, il embarque une guitare, il embarque de la boisson, il a pris 2 douches consécutives, a pris son plus beau costume, qui se limite évidemment à un pantalon, une chemise propre, mais jamais un tahitien ou une tahitienne ne seront sales. Vous demandez à votre bonne d'aller vous chercher un objet quelconque chez l'épicier à côté, elle prend quelquefois sa douche si c'est un peu loin, en tous les cas, elle change de robe et elle se peigne à coup sûr. Par conséquent, vous voyez ce que peut être le 14 juillet chez les tahitiens, qui aiment la fête, qui sont, et Guy de Larigaudie, déjà, qui peut paraître curieux de citer là, mais qui a très bien vu les choses en Océanie, nous a dit...
Guy de Larigaudie était passé à Tahiti.
Guy de Larigaudie est passé à Tahiti, dans les îles australes, dans une île où j'ai séjourné, et j'ai ceci de commun avec lui, j'ai fait une chute de cheval au même point, lui-même est tombé de cheval avant la guerre. Et Guy de Larigaudie avait dit, les tahitiens, les polynésiens, sont les gens les plus joyeux et les plus fêtards que j'ai jamais connus. Et c'est vrai, leur esprit infantile, leur esprit de gentillesse s'accommode parfaitement de cette fête permanente. On travaille juste pour gagner ce dont on a besoin. Les économies, ça existe assez peu. On a d'ailleurs rarement vu un tahitien s'enrichir. La chose n'existe pas et on peut, je le dis à mon gré, les voler relativement facilement sans qu'ils s'en inquiètent. Ce qu'on a aujourd'hui, on l'a, on ne l'a plus demain, ça n'a pas d'importance.
Précieuses archives tout à l'heure de 1954.
Magnifique, le délicieux, heureusement, le on a délicieux changé. Esprit infantile du tahitien.
Le point de vue a changé, on évolue totalement. Quand même l'humain. C'est quand même rassurant, on dit toujours que les choses sont de pire en pire, mais là, on a changé, on ne les voit plus comme ça. Est-ce qu'on a entendu, Michel ?
The Tahitian Choir. Je ne peux pas vous en dire davantage, c'est tahitien. Allez, je vais me lancer, c'était Oua Poutou Poutou Tatoué.
Bon, c'est bien. Alors, on a rendez-vous avec Antoine. On l'a appelé, évidemment, au téléphone, parce que la Polynésie française est loin. Il y a 12 heures de décalage. Donc, nous l'avons appelé à 18 heures. Il était pour lui 6 heures du matin. Donc, il s'est levé tôt pour nous. Et s'il y a vraiment quelqu'un qui symbolise les îles paradisiaques, c'est vraiment Antoine. Antoine qui... Antoine, pour, de nouveau pour les, qu'est-ce que, pour les moins de 20 ans, c'est ça encore ? Mm-hmm. 66. On est vieille, il faut que je fasse court. Antoine, donc les élucubrations d'Antoine 66, Johnny en cage à Metrano, il chante sur toutes les scènes d'Europe et il ne cesse dès 74, après avoir interrompu son tour de chant, de naviguer partout dans le monde. Donc il écrit, photographie, partage avec nous ses aventures, des livres. Je reviendrai tout à l'heure parce que j'ai pas le temps de vous dire tout ça. On va tout de suite le retrouver. Il est à toi ma moto et il nous parle de ses projets et de pourquoi un jour il est parti.
Bon, moi j'ai toujours été voyageur, hein. Vous l'avez dit, né à Madagascar, j'ai vécu 4 ou 5 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon, les petites îles de l'Atlantique Nord. Quand j'ai commencé à devenir chanteur, même étudiant d'ailleurs, j'ai voyagé tant que je pouvais, Amérique, Europe, autostop ou avion. Ensuite, lorsque je suis devenu chanteur, j'ai été séduit avant tout par les voyages, les tournées. Mais on ne voyait finalement que le studio de télévision, l'hôtel et l'aéroport à peu près, quoi. Et puis quand le bateau est arrivé, j'avais 25 ans et ça a été un coup de foudre. J'ai réalisé très vite que ça pourrait être non pas un truc pour faire des ronds dans l'eau à côté d'un yacht club ou dans une baie de Bretagne, mais pour partir voyager autour du monde et puis pour raconter et en vivre, quoi. Tout d'un coup, c'était un plan de vie. J'avais 25 ans. Je me suis dit, j'ai mes 5 ans pour tout organiser et à l'âge de 30 ans, et quelques mois, et ben je suis parti. Et puis ça fait, je pensais que ça durait 5 ou 6 ans, ça fait 37 ans que ça dure.
Et puis Antoine, souvent, si c'est pas tout le temps, en solitaire, si j'ai bien compris. Hein.
J'ai fait de très très nombreuses traversées en solitaire. J'aime beaucoup, ça fait, on ressent tout beaucoup plus intensément. Les joies et les frayeurs d'ailleurs.
Qu'est-ce que la mer vous procure?
Bon, la mer en elle-même, c'est avant tout un espace de liberté. On a autour de soi un horizon à 360 degrés qui permet d'aller un petit peu où on veut. Bon, il faut respecter des autres choses, des termes de considération physique ou réglementaire, mais c'est un espace de liberté qu'il n'y a plus maintenant, quoi.
Alors, c'est sûr que là, les lagons, les tropiques, toutes ces îles comme ça, sable blanc, et renvoient un petit peu une image idyllique. Vous avez à la fois le pouvoir de les transmettre par vos photos, et puis en même temps, vous voyez les coulisses. C'est pas toujours aussi idyllique que ça, ces îles dites paradisiaques, Antoine.
Bah écoutez, comme je le disais, il y a des nécessités. Le climat n'est pas toujours parfait, malgré la chaleur, il peut faire trop chaud. Dans les îles basses comme Etoile-Autou, les choses ne poussent pas facilement. Il faut s'organiser pour avoir du ravitaillement qui vient de loin. Les gens qui vivent, c'est pas une forme de paradis. Bon, ils ont quand même une très gros avantage. Ils n'ont pas de surpopulation. Ils ont une vie assez épargnée des grandes bêtises générales du reste du monde. Tout n'est pas idéal, mais je viens surtout pas faire des photos ou des films de la misère ou du malheur et tout. C'est pas du tout mon genre pour aller tirer des revenus de ça. Je serais incapable de gagner un sou à diffuser la photo d'un oiseau mazouté ou d'un enfant affamé. C'est pas du tout ma vie. J'applaudis, j'approuve le travail d'Al Gore, de Nicolas Hulot, de Yann Arthus-Bertrand, essayant d'appeler, d'éveiller le plus possible les gens à la conscience. Mais je pense qu'il faut aussi montrer la beauté, tout en disant, vous rendez compte comme c'est beau, ça vaut pas la peine qu'on protège ça, mais avant tout montrer la beauté, quoi.
Antoine, vous revenez en France, on l'a compris, mais votre vraie maison, elle est où exactement, en fait? Elle est là où on vous appelle ce matin?
Ma maison, c'est un bateau. Ma maison, c'est à peu près la dimension d'un studio citadin. Sauf que c'est réparti différemment parce que c'est un bateau, c'est un catamaran de 12,50 m. C'est pas un yacht de luxe, c'est un petit bateau, mais confortable. Hein. Il y a un carré spacieux, il y a quatre cabines. Ma maison, elle est petite, mais elle a beaucoup d'avantages. Elle se déplace facilement, alors que les autres maisons, les maisons normales des gens, ben c'est comme des bateaux, mais mal construits, c'est incapable de se déplacer. Moi, la mienne, je la déplace en fonction de la saison, du temps et tout. Il y a un archipel que j'aime beaucoup, qui est l'archipel des Gambiers. En ce moment, il fait froid. Il fait frais, alors ben, j'attends encore quelques mois avant d'y retourner. Ou bien, lorsque j'ai besoin de travailler sur le bateau, je pars vers la Nouvelle-Calédonie ou vers la Nouvelle-Zélande. Ma maison, elle n'a pas de racines, quoi. Elle se déplace comme ça. C'est un bateau jaune qui s'appelle Banana Split. Oh
yeah. Antoine, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on est tous aussi fondus des îles, hein, de la notion d'île, au-delà des cocotiers, hein, mais on aime bien ces petits bouts de terre comme ça, un peu presque clos, perdus dans l'immensité. Pourquoi, vous croyez?
Si tout le monde est dans une île, on sent quelque part que le fait que l'endroit soit limité, soit clos, il y a une espèce de frontière naturelle tout autour, et ben on a une espèce de protection. On est protégé un petit peu, on se sent, on a un peu l'impression qu'on va pouvoir y vivre d'une certaine façon. Enfin, c'est toujours limité de nos jours, mais dans une espèce d'autarcie. Ça peut être un espace clos qu'on est un instant débarrassé de l'immensité un peu effrayante de la frontière, quoi. Dans l'île, on se sent abrité. Et une petite anecdote, lorsque je rentre en région parisienne, j'ai un petit studio que je loue dans une île. Une île qui est bien verte, où il y a un très grand parc, mais toute une partie habitée avec des petits immeubles tout à fait basiques. Mais lorsque je rentre dans cette île, ça m'apporte, sans même que j'y réfléchisse, une espèce de protection, de satisfaction, de réconfort. Et lorsque je vais affronter, ce qui n'est pas toujours, il y a des victoires, mais il y a aussi des défaites, affronter le monde du show business, la promotion, la télévision, comme vous dites tout ça, et ben, je suis content d'avoir ce petit abri qui est dans une île également. Oh yeah!
Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît.
Et puis la chemise à fleurs, vous l'aimez toujours?
Ah bah oui, les chemises à fleurs. Bien avant la période hippie, avant même que les gens se mettent des fleurs dans les cheveux et sur la peau, j'avais découvert la chemise à fleurs. À l'époque, c'était un corsage de femme, la première que j'avais acheté d'ailleurs. Ça m'avait séduit. Et puis l'idée de se mettre des fleurs sur le corps, quand tant de gens s'habillent en gris, et même pas par obligation, souvent par conformisme, eh bien, j'ai porté des chemises à fleurs longtemps. Et puis je suis parti en bateau, j'étais plutôt en bleu marine, genre marin breton. Et puis je suis arrivé en Polynésie. Alors là, pauvre, je suis retrouvé à la source des tissus fleuris. Et là, depuis, j'ai pas quitté, quoi.
Vous nous avez fait la gentillesse de vous lever fort tôt. Il est 6 heures du matin là-bas chez vous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous? Comment ça s'organise?
Ben, aujourd'hui, c'est une journée citadine parce que nous sommes venus, justement, j'avais à envoyer notre prochain film qui est consacré à l'océan Indien, qui a été tourné l'an dernier. Je devais envoyer quelque chose et donc je suis venu à un endroit où il y a un avion pour faire envoyer un petit fret, un DVD avec des voix qui doivent être travaillées à Tahiti par une équipe de son qui est mieux équipée que moi. Ensuite, il y aura un peu de course parce que on attend, il n'y a encore pas grand chose aujourd'hui, mais demain arrive le bateau hebdomadaire. Alors ici, en général, il y a des fruits et des légumes pendant les quelques heures qui suivent l'arrivée du bateau, et puis après, il n'y en a plus, quoi. Donc, on se prépare pour demain à aller faire le ravitaillement. En général, on fait une escale comme ça toutes les 3 semaines à peu près, pour aller justement se ravitailler et être libre ensuite de partir pour 2, 3 semaines, 1 mois, quoi.
Vous savez ce que je me disais aussi, bon, ça c'est plus pour l'anecdote, c'est que finalement, jadis la chanson Hallyday Antoine, et puis aujourd'hui, tous les deux avec des pubs pour les lunettes, aussi bien Johnny que vous, vous vous êtes rapprochés aussi sur ce truc-là, c'est rigolo, non ?
Oui, oui, on a même failli se croiser en bateau aussi, parce que Johnny un jour m'a téléphoné pour me demander des conseils, il voulait s'acheter un bateau. Alors je lui ai conseillé une magnifique goélette d'aluminium qui allait se construire dans le même chantier que le mien et tout, qui aurait été. Mais en fait, ce qu'il voulait, c'était une cigarette, c'était un bateau à moteur pour aller très vite. C'était pas la même chose qu'un voilier, quoi. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer Johnny en mer, mais ça serait amusant.
Comment on se dit au revoir en polynésien ?
Eh ben écoutez, pour dire au revoir en polynésien, d'abord le salut en général, c'est Yaorana. Et le chez abrégé pour dire au revoir, c'est très mignon, c'est Nana.
Alors, Nana, Antoine.
Eh bien, Nana, à vous tous, amitié à tous nos amis en Suisse. Vraiment, je vous dis, c'est pas pour... j'adore faire un petit tour en Suisse. C'est un pays que j'aime bien, où j'ai vécu à Thonon-les-Bains quand j'étais enfant, et je regardais le Suisse de l'autre côté. Parfois, je prenais le bateau à Rouen pour aller jusqu'à Lausanne, ou j'allais à Genève regarder les marchands jouer, et c'était des très bons souvenirs.
Toutes les références des livres d'Antoine, il y en a une quinzaine sur le site antoine.tv et le tout dernier, 20 paradis chez Gallimard, ça c'est le dernier livre, il y en aura un autre à la rentrée sur les animaux.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit, il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise au marquis. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolé. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit des soumises, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Voilà, chanson apothéose choisie par Nathalie Schoenberg, presque incontournable. On ne sait pas bien si Antoine et Brel se sont croisés. Voilà, on lui posera la question une autre fois. Donc Les Îles, c'est tous les matins jusqu'au 19 août. Et Michel s'embarque incessamment sous peu pour...
Pour l'île Bourbon. C'est l'ancien nom, hein, c'est pour la Réunion. Entre mer, vanille, fougère géante, volcan hyperactif. Une île qui, vous l'entendrez, pourrait donner au monde entier des leçons de métissage.
Et après, vous irez manger du phoque.
Vous irez manger du phoque aux îles de la Madeleine.
Et avoir les foudres de la Bardo aux îles de la Madeleine. Oui. Voilà.
On ira manger du phoque, voilà, on chasse le phoque aux îles de la Madeleine. Pas les blanchots, pas les petits, évidemment, mais les adultes. On chasse le phoque et on mange du phoque.
Bon, vous me raconterez si c'est bon. Et moi, je vous embarquerai avec Christophe Canu aux Açores. Ça sera la troisième semaine. Les îles en chair et en os. Merci, un grand merci à toute l'équipe, notamment Christian Morero, notre réalisateur ce matin, qui nous ont aidés à préparer cette émission, et Monique Cortési, l'assistante de l'émission. Et là, il est sur la première, très exactement 11h. RSR.